Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission Cryptopédago qui vous explique simplement le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Pauline Adam-Calfon qui est en charge de l'offre blockchain au sein du cabinet de consulting international PwC. Pour faire simple, si vous êtes une grande entreprise et vous souhaitez vous mettre à la blockchain, c'est une des personnes que vous risquez de rencontrer rapidement. Avec elle, nous parlerons justement des grands groupes et de la façon dont ils s'accaparent cette technologie. Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, beaucoup de sociétés se positionnent sur la blockchain, mais peu proposent des innovations réelles. C'est presque devenu une habitude. Ah tiens, encore un géant qui veut se faire bien voir en parlant de blockchain. En tant que journaliste, je peux vous dire, ça arrive absolument tous les jours. Alors bien sûr, parler de blockchain, c'est souvent l'occasion de s'offrir une belle publicité à peu de frais. Et quand on fouille pour voir ce que ça change vraiment, la déception est régulièrement à l'arrivée. Mais la question qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui, c'est: est-ce que toutes ces initiatives sont vaines? Pourquoi les grandes entreprises n'ont-elles toujours pas proposé d'application blockchain révolutionnaire? Avec Pauline Adam-Calfon, nous verrons que tout ceci est d'abord une histoire de temps et d'acculturation. Quand une start-up peut rapidement tester une idée sur le marché, la grande société devra convaincre son top management et parfois commencer par des cas d'usage basiques avant de sortir enfin un produit très ambitieux. Alors bonjour Pauline Adam-Calfon, bienvenue dans 21 millions.
Merci, bonjour.
Alors chez PwC, vous êtes un peu Madame Blockchain et votre mission consiste à conseiller les grandes entreprises qui décident d'adopter cette technologie ou en tout cas qui se posent la question de l'adopter. Du coup, en quelques années, vous avez dû voir leurs sentiments largement évoluer. Est-ce que la blockchain est désormais un sujet important pour elles?
Alors, il y a deux façons de répondre à la question. Donc déjà, oui, on a vu effectivement les choses évoluer et puis évoluer finalement assez récemment, hein, parce que ce ne sont pas des technologies aussi matures que ça, même si on fête le 10e anniversaire. Ce qu'on voit, c'est que jusqu'à très très récemment, et quand je dis très récemment, j'ai envie de dire 12-18 mois, c'était vraiment des sujets qui étaient réservés à des spécialistes au sein des corporates. Donc voilà, si je caricature un peu des geeks qui étaient férus de technologie, et ça restait des sujets qui étaient cantonnés en fait à des experts. Là, on voit en fait un mouvement où le sujet commence à se diffuser au sein des corporates. Donc ça, c'est quand même une évolution assez forte. Après, il n'est pas diffusé de la même façon dans toutes les entreprises, évidemment.
Alors, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, de la deep tech ou encore de la nanoélectronique. Alors, est-ce que selon vous, la blockchain est prise autant au sérieux par les corporates ?
Je pense que quand le sujet est abordé, c'est un sujet qui est tout à fait pris au sérieux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que derrière la blockchain, il y a eu toute une phase où il y avait pas mal de choses négatives, de connotations négatives. On a encore énormément d'entreprises qui, pour prendre le sujet et pour essayer de faire en sorte que ça devienne un sujet d'entreprise, font absolument la différence entre d'un côté la blockchain, qui peut sembler, on va dire, propre, et les cryptos, dans certains environnements, peuvent paraître sales. On n'a évidemment pas tout ce débat autour des nanotechnologies, de l'intelligence artificielle, même si, évidemment, il y a des sujets autour de la déontologie. Mais on va dire qu'il y a quand même une particularité autour de ces sujets blockchain. C'est tout cette, on va dire, tous ces débuts un peu sulfureux qui ont quand même pas mal fait parler d'eux, et pour le coup, auprès du grand public.
Comment la prise de conscience en faveur de la blockchain a-t-elle eu lieu au sein des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a eu un catalyseur?
Alors oui, il y a encore une fois, il y a deux phases. Il y a déjà le fait que dans toutes les entreprises, on a certains collaborateurs qui se sont vraiment pris, mais à titre personnel, du sujet et qui ont vraiment voulu le pousser parce qu'ils ont vu assez tôt l'intérêt. Mais surtout, il y a eu des POC qui ont fait parler d'eux, donc des proof of concept, voire des mises sur le marché, qui du coup ont fait réellement prendre conscience finalement au top management que c'était un vrai sujet d'entreprise.
Donc souvent, voilà, ça vient de l'intérieur, quoi.
Ça vient de l'intérieur et aussi de l'extérieur, c'est-à-dire que je pense, si on prend un secteur comme l'assurance et qu'on reste sur le sol français, il est indéniable que tout le monde dans le secteur de l'assurance a entendu parler du lancement de Fidzi, par exemple, qui avait été lancé par AXA.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et qu'est-ce qui intéresse vraiment les grandes entreprises dans la blockchain aujourd'hui ?
Eh ben, c'est justement la question, c'est la bonne question qu'elles doivent se poser. Malheureusement, elles ne se posent pas toujours cette question de savoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. On voit parfois des... qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Typiquement, ça peut être soit des sujets de type expérience client. Typiquement Carrefour qui permet d'offrir de la transparence à ses clients en blockchainisant en fait les produits alimentaires qu'elle propose dans ses magasins. Donc transparence. Ça peut être des sujets de certification. Pouvoir apporter de la transparence sur le fait que des actions qui doivent avoir lieu ont réellement eu lieu. Ça peut être des gains économiques avec des coûts de transactions qui sont réduits. Et puis, et je pense que c'est un sujet qui n'est pas encore assez pris mais qui émerge et à mon avis qui est fondamental, qui sont des sujets autour de refonte totale de business model. Et souvent, en fait, le sujet souvent, dans les cas où en tout cas on n'a pas encore des mises sur le marché qui sont très massives, c'est que le sujet a été pris soit uniquement sous l'angle technologique, soit sans vraiment justement se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à obtenir avec la mise en place de la blockchain.
Et pour l'instant, ces projets dépassent rarement le stade de l'expérimentation ou de l'annonce marketing un peu creuse. Comment ça se fait que les premiers produits grand public révolutionnaires tardent autant à arriver ?
Ben, encore une fois... On voit que les premiers POC... proof of concept, donc voilà, les premières expérimentations, pardon, elles étaient faites plutôt justement par des équipes qui étaient vraiment convaincues que la blockchain pouvait disrupter, mais c'est pas forcément des sujets qui avaient été pris au niveau du comité exécutif de l'entreprise. Donc, pas forcément, ils n'avaient pas forcément eu l'occasion d'avoir une réflexion globale. Or, c'est vraiment, nous semble-t-il, des sujets qui doivent être pris à haut niveau parce qu'il y a différentes dimensions, des dimensions déjà de gouvernance puisqu'on est sur des systèmes décentralisés, des questions économiques, des questions comptables, des questions réglementaires, des questions typiquement d'expérience client, etc.
Et est-ce que vous pouvez nous dire avec qui vous travaillez actuellement ?
Alors oui, il y a des clients pour qui, enfin je ne vais pas forcément donner des noms de clients, mais on va dire, je vais plutôt donner des secteurs d'activité. On travaille beaucoup avec des acteurs dans les services financiers, que ce soit des acteurs bancaires au sens large, des acteurs de type des exchanges, des acteurs dans le monde de l'assurance. On travaille aussi avec des pure players et on travaille avec quelques acteurs aussi dans l'industrie. Mais nos clients, en tout cas, sont plutôt dans les services financiers parce que une des raisons pour lesquelles il s'intéresse à la blockchain, c'est tout ce qui tourne autour de la tokenisation.
D'accord. Et la tokenisation, si on pouvait la définir simplement, ça serait quoi ?
Ben, la tokenisation, en fait, c'est la représentation digitale d'un actif. Donc, c'est le fait de pouvoir émettre en fait un jeton Finalement, elle a un intérêt assez fort pour pouvoir finalement créer un second marché apporter de la liquidité sur des actifs qui traditionnellement ne s'y prêtent pas. Donc typiquement, si on prend l'exemple du secteur du real estate, donc de l'immobilier, bon, aujourd'hui, quand vous achetez un immeuble, pour faire simple, bon, il peut y avoir quelques acteurs, il y a des mécanismes où on n'est pas obligé d'avoir un seul propriétaire, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui est réparti sur des centaines ou des milliers de propriétaires. La tokenisation, c'est typiquement un outil qui permet d'apporter une liquidité, encore faut-il qu'il y ait un second marché bien structuré.
Et pour en venir plus globalement au développement du secteur, est-ce qu'il y a un risque que la blockchain ne soit qu'un effet de mode et que dans 5 ans, on n'en parle plus ?
De toute façon, si vous prenez toutes les prédictions qui étaient faites au moment de l'émergence de technologies, il y en a plein qui sont fausses, donc je ne vais pas rentrer dans la prédiction. Nous, on est convaincus que non, que ce n'est pas qu'un effet de mode. Bien sûr, on pense que sur certains, il y a eu certains use cases autour de la blockchain qui sont gadgets. Et donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de cas d'usage sur lesquels on va revenir en se disant bah non, finalement, la blockchain, c'était qu'un effet de mode. Cela étant, nous, on pense qu'il y a vraiment des tendances de fond avec des vraies utilités. Et voilà, je parlais de la tokenisation, c'est un exemple.
Et c'est marrant parce que vous parlez de ces cas d'usage gadget. Parce que souvent, un projet blockchain pourrait être réalisé grâce à une simple base de données distribuée classique. C'est moins cher et en plus, c'est plus facile à utiliser. Pour quelle raison la blockchain est souvent utilisée dans ces cas-là, selon vous ?
Alors, déjà, il y a une... Si je prends certains, je ne vais pas citer de nom, mais il y a certains corporates qui ont lancé, donc en mise sur le marché, on n'est pas sur de l'expérimentation, des cas d'usage autour de la blockchain et pour lesquels vous verrez énormément de commentaires qui se répandent dans la presse pour dire que c'est typiquement des cas gadgets. Pour autant, donc on pourrait se dire c'est n'importe quoi, ils auraient pu tout à fait le faire autrement. Alors parfois... le cas d'usage gadget qui a servi à faire la première expérimentation, il avait d'autres intérêts que simplement ce cas d'usage en tant que tel. Il avait l'intérêt de permettre à l'entreprise d'apprendre à travailler avec un écosystème blockchain, de pouvoir voir finalement tous les sujets qui nécessitent d'être traités, d'apprendre à mettre en place une gouvernance, parce que c'est un point par rapport aux entreprises qui est extrêmement structurant et qui est spécifique aux grandes entreprises. C'est une problématique qu'on n'a pas quand on est une start-up ou vraiment un petit pure player. Donc il ne faut pas jeter, finalement, mettre à la poubelle tous les use cases qui peuvent paraître gadgets. Alors bien sûr, il y en a où le seul intérêt, c'était de tester en tant que tel le cas d'usage et l'appétence du marché. Et donc oui, bon, ça ne marche pas. Mais il y a vraiment d'autres cas où vraiment la stratégie, c'était de commencer à apprendre à travailler avec l'écosystème, de commencer à apprendre à travailler en interne. Parce que ce qui est important aussi, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez PwC, c'est que cet écosystème de blockchain, il est très particulier, c'est vraiment des experts. Et il y a tout un enjeu de diffusion des compétences et de faire matcher finalement les compétences métiers avec ces compétences qui sont purement blockchain. Et c'est extrêmement important de réussir à mettre en place en fait le dialogue entre ces différentes expertises. Et donc le fait de pouvoir lancer un premier cas qui est peut-être pas très intéressant d'un point de vue économique, eh bien c'est aussi une façon d'apprendre à collaborer et d'apprendre à voir sur des petits sujets finalement les points structurants pour peut-être le coup d'après, voir les sujets en grand. Puis il y a un deuxième intérêt aussi autour de qui ne t'aura pas échappé, c'est aussi que ça a pu permettre à certaines entreprises d'avoir énormément de buzz médiatique parce que ce sont des sujets qui ont été extrêmement repris, commentés. Voilà.
Et je voulais vous demander quels étaient les secteurs qui offraient le plus de perspectives pour un développement ambitieux de la blockchain. Vous m'avez un peu répondu tout à l'heure. C'est pour l'instant, le monde financier s'y prête en priorité. Et je voudrais qu'on parle spécifiquement de l'assurance. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme produit révolutionnaire dans l'assurance avec la technologie blockchain? J'imagine que les smart contracts, c'est, donc ces contrats intelligents peuvent apporter quelque chose.
Oui, alors, en fait, je ne sais pas si la question, elle doit tourner uniquement autour des produits, des nouveaux produits d'assurance qui seront induits par, par la blockchain. Je pense que la question peut être plus large. Mais déjà, pour répondre à cette question... Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des coûts de transaction qui sont réduits, il y a des marchés qui n'étaient pas accessibles pour des assureurs, des marchés sur lesquels il y a de la demande d'assurance, mais sur lesquels le modèle économique ne permettait pas à des assureurs de se positionner.
Par exemple.
Je pense par exemple à des marchés de type micro-assurance ou des assurances pour des pays en développement avec, avec des coûts qui soient acceptables quand on est sur des territoires très larges, avec des smart contracts et le lien notamment avec tout ce qui est IoT. On peut imaginer d'automatiser totalement la chaîne. Donc,
est-ce qu'on aurait un exemple concret pour que les auditeurs comprennent?
Par exemple, vous êtes un agriculteur, vous voulez assurer votre champ contre des risques de sécheresse puisque vous êtes sur une zone géographique sur laquelle il y a de la sécheresse. Vous souscrivez du coup une assurance de type, météo. Automatiquement, en fait, quand on a... Alors, ça peut être soit en fonction des données de la météo, soit des données un petit peu plus sophistiquées avec des capteurs qui vont regarder le taux d'humidité. Et automatiquement, vous pourriez... vous pouvez être indemnisé. Donc, voilà un exemple de produit sur lequel, finalement, avec une chaîne qui est full automatisable, on peut proposer un produit qui soit rentable. Là où aujourd'hui, en fait, même s'il y a de la demande, il y a une difficulté à trouver le business model. Donc ça, c'est des exemples de produits. Il y a un deuxième exemple qui sont des produits qui sont liés au marché de la blockchain en tant que tel. Ça peut être de la même façon qu'il y a des assurances pour des IPO.
Des IPO, donc des introductions en bourse.
Oui. Absolument. Eh bien, il y a des produits qui sont en train de se structurer autour d'ICO, SEO, donc des émissions de tokens, enfin des levées de fonds, on va dire, des levées de fonds digitales. Il peut y avoir de façon plus large des produits d'assurance pour assurer en cas de hack. Si jamais un détenteur de crypto se fait hacker. Donc voilà, ce type de produits qui sont nouveaux et qui sont induits par la blockchain. Au-delà des produits, c'est un marché, en fait, c'est un marché sur lequel l'automatisation n'est pas équivalente selon les maillons de la chaîne de valeur, notamment tous les flux entre assureurs et réassureurs sont relativement manuels et il y a énormément de réflexions sur le marché pour pouvoir justement utiliser la blockchain pour partager ce type de flux.
Et quels sont les protocoles blockchain aujourd'hui qui sont préférés par les corporates? On entend beaucoup parler d'Hyperledger, donc, qui est largement financé par IBM, Ethereum aussi, et même Amazon a récemment présenté son offre.
Il y a un premier point qui tourne autour de la prise de conscience de la responsabilité sociétale des entreprises, donc tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle RSE. Et donc, le fait, une question qui revient très souvent, c'est le côté énergivore, puisqu'il y a eu énormément de communication de fait sur le minage, notamment sur Bitcoin, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et comme les dirigeants d'entreprises sont de plus en plus soucieux d'avoir un impact positif sur la société, c'est clairement un des critères de choix. Donc, ils sont plutôt enclins, pour ceux qui n'ont pas déjà mis en place des solutions de blockchain, à préférer des nouveaux des protocoles qui ont été déployés plus récemment et qui reposent sur d'autres principes de consensus et qui ne nécessitent pas de minage. Donc ça, c'est le premier point. Donc,
est-ce qu'on pourrait en citer quelques-uns? Donc Hyperledger est comme ça.
Donc, par exemple, Tezos. Ouais. Tezos, typiquement, on est sur d'autres principes. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'ils ont compris que finalement, c'est pas la blockchain, c'est les blockchains, et que finalement, il y a des protocoles qui se prêtent plus à certains cas d'usage. Donc là où finalement ils se posaient pas complètement la question, ou dit autrement, ils allaient un petit peu là où tout le monde allait. Donc effectivement, voilà, Ethereum par exemple, quand il y a eu les smart contracts, ils sont beaucoup plus ouverts maintenant à se poser la question de finalement, en fonction de mon cas d'usage, expliquez-moi quel est l'avantage de tel ou tel protocole.
Et chez PwC, vous êtes agnostique?
On est totalement agnostique, ouais.
Et à votre avis, il y a de la place pour tous ces protocoles qui sont lancés? Beaucoup disent qu'il en restera deux ou trois, en fait, ouais. À la fin.
Je ne sais pas si ce sera deux ou trois, mais ce qui est certain, c'est que beaucoup n'existeront plus. Mais ça, c'est vraiment typique d'un marché, en fait, qui est émergent. Pour tout marché émergent, en fait, il y a une multitude d'acteurs et puis il y a une rationalisation qui se fait. Après, je pense qu'il peut y avoir la place pour plusieurs qui seront, encore une fois, plus adaptés à certains grands cas d'usage. Voilà. Bien sûr, on ne va pas avoir un cas d'usage égal un protocole.
Et là, on parle beaucoup de blockchain depuis tout à l'heure. Et finalement, assez peu des cryptoactifs. Est-ce que les grandes entreprises ont peur des cryptoactifs?
Alors là aussi, en fait, je pense que la maturité est différente, encore une fois, selon les secteurs. Typiquement, si on regarde dans les secteurs des services financiers où c'est à peu près naturel de gérer des actifs, je pense qu'il n'y a pas forcément de peur. Il y a peut-être la peur encore, aujourd'hui en tout cas, pour des acteurs français, de pouvoir proposer en fait à leur base client de pouvoir acheter et conserver en fait des crypto-monnaies. Ça, je pense que c'est pas encore un cliquet qui a été déverrouillé. En revanche, utiliser la mécanique des crypto-actifs pour pouvoir émettre ou échanger des tokens qui sont des actifs crypto. Je pense que, en tout cas, parmi les acteurs des services financiers, ce cliquet-là est déverrouillé aujourd'hui.
Et Facebook devrait prochainement lancer sa crypto-monnaie destinée à s'envoyer des fonds entre utilisateurs. Est-ce que, selon vous, ça pourrait changer le paradigme?
Alors, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Derrière cette idée, en fait, ce qu'il y a de nouveau, en tout cas pour le grand public, c'est cette notion de, on va dire, stablecoin.
Donc, il faudrait définir. Donc les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies indexées sur d'autres actifs, voilà. Et c'est souvent le dollar.
Et du coup, l'intérêt, c'est qu'on enlève tout sujet, justement, de spéculation qui, notamment, peut faire peur. Donc oui, ça, c'est des sujets qu'on regarde avec attention. Et je pense que oui, ça pourra... alors, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y aura pas d'intérêt pour tout le monde d'avoir un stablecoin. Mais effectivement, dans certains cas de figure, je pense que ça pourra avoir des impacts forts.
Et en 2017-2018, on a entendu beaucoup de rumeurs au sujet d'ICO lancés par des géants du CAC 40. Alors aujourd'hui, on n'en a toujours pas vu la couleur. Est-ce que c'est quelque chose qui a été définitivement écarté par les grandes entreprises?
Alors, non, ça n'a pas été définitivement écarté. Alors, on parle d'ICO ou d'émissions de securities token. Donc, en France, un token peut avoir différentes formes. Plutôt la forme qu'on appelle utility token ou qui donne plutôt accès, on va dire, à des services. ou security token, qui est plutôt assimilable, on va dire, à un titre financier. La façon de comptabiliser, le cadre réglementaire n'est pas du tout le même pour l'un et pour l'autre. Donc, il y a des projets qui étaient pensés dans un cadre. Aujourd'hui, on voit un éventail un peu plus large d'instruments possibles pour émettre des tokens. Je crois qu'effectivement, ceux qui pensaient qu'on aurait un nombre important d'ICO ou même de STO tout de suite, ont surestimé cette tendance. Ce qui est sûr, c'est que... Les grands corporates, ils ont besoin d'un cadre réglementaire qui soit stable pour pouvoir faire ce type d'exercice. Donc évidemment, il y a énormément d'attentes par rapport finalement à la déclinaison de la loi Pacte, puisque là, il y a eu toutes les discussions dans les chambres. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans les prochains mois. Et finalement, tout le monde se regarde. Finalement, pour avoir des tokens, il faut un cadre réglementaire qui soit stable. Il faut aussi avoir des plateformes dans lesquelles on ait confiance pour pouvoir échanger ces tokens pour le marché secondaire, parce que un des intérêts, c'est quand même de pouvoir apporter de la liquidité. Donc finalement, il y a quelques grands maillons, on va dire, qui sont nécessaires pour que cette chaîne de valeur fonctionne. Et en fait, c'est l'œuf et la poule. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Est-ce que nous on pense que tous ces projets sont mis aux oubliettes? La réponse est non. Est-ce qu'on voit que certains temporisent? La réponse est oui. Est-ce que certains continuent d'avancer? La réponse est oui également.
Et vous êtes présent partout dans le monde avec PwC. Donc vous avez vraiment une vision globale du secteur. Est-ce que la France peut devenir une crypto-nation, ou en tout cas un pays où on vient lancer ces initiatives blockchain?
Alors, on est partenaire de la Blockchain Week et du Blockchain Week Summit qui a lieu le 16 et 17 avril. C'est justement parce que nous, on partage tout à fait les mêmes valeurs, les mêmes convictions, qu'il y a quand même un écosystème en France pour lequel on doit absolument pas rougir et qui nous permet de penser qu'on peut tout à fait se positionner comme une blockchain ou une crypto-nation. Il y a quand même des sujets sur lesquels on est très avancé. On a un cadre, par exemple, comptable autour des cryptos que finalement assez peu de pays ont. Donc on met toujours en avant les aspects réglementaires, mais il y a aussi ces aspects comptables. On a aussi, tu parlais en introduction des trends autour de l'intelligence artificielle. On est une nation vraiment où on est fort en recherche fondamentale. Et autour de ces sujets de blockchain, on a besoin de mathématiciens, de compétences autour de cryptographie. On a quand même des atouts qui sont certains et on est reconnu pour ça. Donc, ce qui est certain, c'est que si on n'a pas un cadre global qui favorise l'éclosion de cet écosystème, eh bien on ne sera pas une blockchain ou une crypto nation. Il faut aussi qu'on fasse des investissements pour pouvoir favoriser vraiment l'explosion de cet écosystème qui est quand même en train d'éclore. Mais il faut aller largement plus loin.
Merci beaucoup Pauline d'être passée dans 21 millions.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Pauline Adam-Calfon pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et les précédents épisodes sur Apple et Google Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt !